Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2024. On approche de la fin de ce mois d'octobre, de la fin de cette période pourrie. Généralement, je dis bien généralement parce que là, c'est pas vraiment le cas cette année. Donc de septembre-octobre, on va attaquer novembre, on va avoir droit aux élections américaines. Ça va être passionnant, ça va être génial. Il va se passer plein de choses encore. Mais là, il s'est déjà passé pas mal de choses. La semaine dernière, j'étais absent. Donc beaucoup de choses à dire cette semaine, un peu moins suisse que d'habitude, plus de choses internationales on va dire, parce qu'il s'est passé énormément de choses aux États-Unis, en Europe. On en parle tout de suite, on fait le point avec ce Swiss Bliss, ce dernier Swiss Bliss d'octobre 2025. Alors l'un dans l'autre, on parle beaucoup de chiffres trimestriels, mais également de chiffres économiques. C'était pas la folie furieuse la semaine dernière, mais en tout cas au niveau des chiffres trimestriels, on a eu beaucoup de choses. Si on regarde les performances sur la semaine, c'est pas fantastique, il s'est pas passé des milliards de choses. On verra sur les graphiques que c'est un petit peu tendancieux et on se pose quand même pas mal de questions. On voit de plus en plus d'interrogations qui arrivent dans le marché. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, on continue à avancer plutôt de manière positive, mais on sent que c'est plus aussi simple qu'avant. Et puis, on s'est beaucoup interrogé sur les performances des rendements, finalement, puisqu'on a vu que le rendement du 10 ans américain continue de monter de façon toujours assez impressionnante. Il reste relativement élevé. Alors, on se pose aussi beaucoup de questions sur la suite des événements au niveau de la baisse des taux à venir. On sait qu'il va y avoir un meeting de la Fed au mois de novembre, le 7 novembre. Ils devraient annoncer une nouvelle baisse des taux, mais on s'interroge quand même s'ils vont le faire ou s'ils vont peut-être simplement faire une pause pour voir comment l'économie se comporte ces prochains temps. En attendant, les marchés sont quasiment au plus haut de tous les temps. On va faire un petit peu le point sur tout ça et aussi sur les chiffres trimestriels qui sont sortis cette semaine. Alors tout d'abord aux États-Unis, eh bien la semaine a commencé à s'intensifier. Alors on va pas parler de tout le monde parce qu'il y aurait trop à dire, mais on peut déjà retenir qu'il y a à boire et à manger. Hein. Puis ce qui est assez impressionnant dans la publication des chiffres du trimestre, c'est que quand c'est bon, c'est très bon et quand c'est mauvais, c'est très mauvais. Et on voit que les sanctions sont assez terribles. Alors on retiendra surtout cette semaine et surtout aux États-Unis. L'excellente performance de Tesla qui a cartonné, qui a surpris tout le monde, pas tant par les chiffres en eux-mêmes, mais surtout par les perspectives. Et clairement, selon ce qui a été déclaré par la société, ils sont en train de pulvériser les Chinois aux États-Unis. Affaire à suivre, parce qu'il est vrai qu'une grande partie du rebond a été dessinée par ces prévisions absolument spectaculaires de la part de Tesla, même s'il y a encore 2-3 zones d'ombre pour les plus pessimistes sur le titre. En tous les cas, l'enthousiasme était de retour sur Tesla, puisqu'on a même vu carrément des grosses boîtes américaines type Bank of America qui ont déclaré le retour de la magie Tesla. Donc du coup, on verra ce que ça va nous donner ces prochains temps. On espère qu'ils ont raison, parce qu'on rappelle quand même, pour des gens comme Madame Katie Wood, qui pensent toujours qu'on a un target à je sais plus combien de milliers de dollars sur Tesla ces prochaines années. Donc il va falloir commencer à y aller. En tous les cas, peut-être que c'est le début de quelque chose. C'est en tous les cas ce que ça donnait comme sentiment cette semaine. Il y a aussi Coca-Cola qui a publié des chiffres meilleurs que les attentes, avec des perspectives meilleures que les attentes. Ça n'a pas suffi. Tout le monde a vendu le titre. Hein. Ça fait partie de ces titres qui avaient très bien performé. Donc, il y a eu quelques prises de profit aussi. Et puis, même si ça n'a rien à voir avec les résultats, on parlera quand même de McDonald's. Donc, McDonald's qui a des gros problèmes avec ces bactéries E. coli qui ont infecté beaucoup de gens aux États-Unis. Enfin, beaucoup trop de gens, on va dire. De toute façon, sur la masse, c'est pas monstrueux. Mais il y a quand même eu un décès et donc les infections continuent malgré qu'ils ont stoppé la production de certains oignons qui, semble-t-il, étaient responsables de ça. Affaire à suivre au niveau de McDo, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est la panique, le titre s'est fait démonter. Il faudra juste se souvenir d'une chose. Rappelez-vous, en 2015, Ferrer, Chipotle, tu as eu exactement la même typologie que McDonald's à propos de cette bactérie E. coli. Là aussi, énormément de gens qui avaient été malades, des gens hospitalisés. Et quand vous regardez la performance de Chipotle depuis ces dernières années, et bien vous verrez que le trou qui avait été induit par cette histoire de bactéries E. coli n'existe quasiment plus sur le graphique. Autrement, on pourra aussi noter au passage, parce qu'on va revenir sur l'or tout à l'heure, mais que Newmont Mining a sorti des chiffres qui étaient décevants, surtout au niveau des coûts. Alors autant l'or est en train d'exploser, donc on pouvait s'attendre à mieux sur Newmont Mining. Et Newmont Mining a complètement pas raté ses, ses résultats, mais on va dire que ce qui a surtout gêné les investisseurs, c'est le fait que eh bien, les coûts sont en augmentation chez Newmont Mining. Et donc, il y avait un petit peu une grosse dichotomie. Donc, sur la mauvaise nouvelle, le titre s'est pris 15% dans la figure. Donc, vous voyez que les mauvaises nouvelles sont sanctionnées de manière absolument abominable en ce moment, comme les bonnes, elles sont évidemment sanctionnées de manière assez spectaculaire. Le titre de la semaine, bien sûr, c'est Nvidia qui a passé la barrière des 3500 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est fantastique, tout est extraordinaire, Nvidia c'est génial, l'intelligence artificielle c'est formidable. Ce qu'il faut essayer de mettre aussi en parallèle aujourd'hui, c'est que bah, on est au plus haut de tous les temps, mais on sent quand même qu'en fin de semaine, c'est toujours difficile d'aller chercher plus haut sur Nvidia, même si tout le monde est en train de parler de consolidation à haute altitude avant un nouveau move en direction des 170 ou 180 dollars en fonction des analyses que vous pouvez suivre. Ce qu'il faut surtout retenir pour l'instant, c'est que la capitalisation boursière de Nvidia représente la totalité de la capitalisation boursière de 5 des plus grands pays du G7. Nvidia vaut également 4 fois la bourse italienne en termes de capitalisation. Ça représente 50% de la capitalisation boursière du marché japonais. Et si Nvidia était un indice à elle toute seule, eh bien, ça représenterait un des 6 plus gros indices du monde. Et aujourd'hui, eh bien, Nvidia représente 7,2% de la totalité du S&P 500. On peut se dire que c'est des chiffres de malade, surtout encore une fois, que quand on compare les chiffres bruts, les chiffres actuels et pas les perspectives d'avenir, eh bien, c'est en comparaison, puisqu'elle vaut plus ou moins la valeur d'Apple, eh bien, on n'est pas du tout sur le même jeu. Néanmoins, on a de telles attentes pour les années à venir, pourvu que ça fonctionne. Petit point sur la macro américaine. La semaine dernière, on a publié, comme tous les jeudis, les jobless claims. Alors, sur la semaine et sur la semaine, bonne nouvelle, les jobless claims étaient en baisse de 15 000 en dessous des attentes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les jobless claims sont en train de baisser. Par contre, si vous regardez les continuing claims, parce qu'on regarde toujours les jobless claims qui sont des chiffres semaine après semaine, donc hebdomadaires, mais si vous regardez le continuing claims, la régularité des gens qui continuent à demander des indemnités chômage, eh bien, on est en nette augmentation. La semaine dernière, les continuing claims, dont on ne parle que très peu en ce moment, parce que c'est pas forcément les meilleures nouvelles qu'on puisse trouver, donc on en parle très peu, et ces chiffres-là montrent quand même que bah, ça continue de monter. La semaine dernière, il y en avait 28 000 de plus, et on arrive à 1,9 million de personnes qui demandent des indemnités chômage aux États-Unis. Alors vous me direz, comme ça ne veut pas dire grand-chose, ils sont quand même 350 millions aux États-Unis et des poussières, mais si vous regardez simplement sur les chiffres du passé, eh bien aujourd'hui on est de retour au même niveau, au niveau des jobless claims, que en 2021, il y a 3 ans également en arrière, et on est au-dessus de ce qu'on était en 2018 et en 2019. Et comme vous voyez sur le graphique qui s'affiche devant vous, eh bien, pour l'instant, on n'arrête pas de monter et ça devient un tout petit peu inquiétant parce qu'on est en train de casser gentiment des nouveaux qu'on n'avait plus vus depuis bien longtemps. Alors évidemment, il ne faut pas comparer avec ce qui s'est passé en 2020, mais on commence à remonter quand même à des niveaux un tout petit peu stressants, même si pour l'instant, on préfère quand même observer et les chiffres de l'emploi hebdomadaire qui, eux, vont dans la bonne direction. Mais attention, attention, il y a eu les hurricanes ces derniers temps. Les gens n'ont pas fait comme ils voulaient pour aller demander leurs indemnités chômage parce qu'il faut se déplacer. Donc, je vous laisse imaginer les éventuelles conséquences que cela peut donner sur des chiffres sur des très, très courtes périodes. Autre graphique qui apparaît devant vos yeux à l'instant, c'est les revolving debts sur les cartes de crédit. Donc, c'était les revolving debts, en gros, ça veut dire à la fin du mois, quand vous ne pouvez pas payer ce que vous devez, eh bien, vous le repoussez d'un mois, on vous accorde encore un délai. Eh bien, ces délais sont en train d'exploser et on est en train d'atteindre des niveaux à nouveau extrêmement inquiétants. Et on se rend compte tout simplement en observant ce graphique que, eh bien, le consommateur aujourd'hui est en train de combattre l'inflation en s'endettant. Oui, parce qu'on oublie un peu trop souvent que sur ces 3 dernières années, eh bien, les prix sur la nourriture en général et les prix à la consommation ont augmenté de plus de 20%. Et ça, il faut bien trouver un moyen quelque part de les financer. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les cartes de crédit. Et donc, le nombre d'endettements augmente, mais en plus, les gens arrivent à une situation où ils ne peuvent plus payer cet endettement. Et c'est ça qui devient extrêmement inquiétant. même si pour l'instant, le marché ne le voit pas. Cette semaine, on a également beaucoup parlé du déficit américain qui est en train de se creuser, hein. C'est une catastrophe. On n'a jamais été aussi mal barré sur le déficit américain que depuis ces dernières années. Donc, ça empire sans arrêt. Et puis, à côté de ça, eh bien, on peut toujours revenir sur le graphique de la dette qui s'affiche devant vos yeux. Donc, la dette totale des États-Unis aujourd'hui a augmenté de 473 milliards de dollars au cours des trois dernières semaines. Et aujourd'hui, on atteint un chiffre record de 35 800 milliards de dollars de dette. En gros, ça veut dire que les États-Unis sont endettés à hauteur de 1 450 dollars pour chaque Américain au cours des trois dernières semaines. Ça signifie également que les Américains aujourd'hui détiennent désormais une dette record de 103 700 dollars pour chaque Américain. Donc chaque Américain pèse, a sur ses épaules en gros le coût d'une dette de 103 700 dollars, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. En 2024, les États-Unis ont payé un total de 1160 milliards de dollars d'intérêt sur cette dette. Et pour la première année, pour l'instant, eh bien, on est bien au-dessus de la barre des 1000 milliards de dollars. Et c'était la première fois qu'on cassait ce niveau extrêmement important psychologiquement aussi. Et puis rien qu'en intérêt, eh bien, les États-Unis, jusqu'à maintenant, en 2024, ont payé 3360 dollars pour chaque Américain au cours de l'année fiscale. Donc vous voyez qu'ils se sont endettés de 1450 dollars pour chaque Américain durant les trois dernières semaines, et sur cette année, rien qu'en intérêt, eh bien, ils ont payé quasiment le double pour chaque Américain. Donc la grande question qu'on peut se poser là tout de suite maintenant, c'est quoi le plan à long terme? Eh bien, le nouveau président ou la nouvelle présidente qui sera élue le 5 novembre, eh bien, il aura bien du travail pour essayer de résoudre cette équation qui paraît juste impossible à résoudre. Au niveau des ratings sur les dettes, puisque l'on parle de ça, eh bien on notera que la Suisse a reçu une confirmation de AAA avec perspective stable de la part de Fitch. Donc ça, c'est une des meilleures notes que l'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez Moody's qui a confirmé la note médiocre de la France, mais qui se montre extrêmement sévère dans le jugement et qui estime que pour l'instant, ils sont extrêmement déçus par les évolutions sur la dette française, sur le déficit français. Et quand vous lisez le texte, la publication du texte de Moody's, eh bien, ça laisse clairement penser que si dans le trimestre qui vient, il n'y a pas un miracle qui se produit, et franchement, je ne vois pas comment, eh bien, Moody's devrait baisser encore une fois la note de la France, qui va certainement vachement bien l'apprécier, et ça va encore aider à augmenter la stabilité politique dans le pays à l'heure actuelle. Et puis la petite question de la semaine, est-ce que vous savez sur les 150 dernières années combien de fois le marché américain était en hausse de 25% et l'or était en hausse de 25%? Réponse, aucune. Ça ne s'est jamais produit. Visiblement, on n'était pas loin que ça se produise ou à quelques pourcentages près durant les années 30, mais de toute façon, à cette époque-là, c'était difficile de comparer. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'ère moderne, eh bien, jamais, jamais, on a eu l'or en hausse de 25% et le S&P 500 en hausse de 25%. Eh bien, aujourd'hui, on y est. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut se méfier de quelque chose, mais en tous les cas, eh bien, ça n'était jamais arrivé. C'est vrai que c'est pas forcément très logique, puisqu'on dit en général que quand on a l'appétit au risque, bah, de l'autre côté, on achète moins d'or, et quand on a peur, on achète de l'or. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est dans une phase où finalement, tous les lieux communs, tous les grands concepts que l'on connaît au niveau de l'investissement ces 30 dernières années sont en train d'être remis en question, parce que quand vous regardez le comportement global des marchés, que ce soit au niveau des métaux précieux, des matières premières, des indices boursiers, du Bitcoin, encore le Bitcoin c'est un peu trop jaune, de l'obligataire, eh bien il y a des choses qui sont incompréhensibles dans la logique par rapport à ce qu'on connaît de l'économie. Donc encore une fois, pour l'instant, quand on dit l'économie est le reflet de la bourse ou la bourse est le reflet de l'économie, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Ça va dans tous les sens, enfin, un seul sens, ça monte. Sur les performances de la semaine, alors vous voyez rebond sur le pétrole qui est avec une hausse de 3,87%. Ça, c'est inévitablement les tensions au Moyen-Orient, les attaques de l'Israël sur l'Iran. On connaît l'histoire, on ne va pas chercher plus loin. L'or qui est en hausse de 0,9%. Le Nasdaq qui reprend 0,16%. Le SOX qui péniblement être en terrain positif. Et puis tout le reste, alors, c'est en baisse. Il y a beaucoup de commentaires positifs sur l'argent, mais il n'arrive pas à casser des niveaux importants. Pour l'instant, le S&P 500 est en baisse de 1% sur la semaine. Le DAX est en baisse de 1% sur la semaine. Le SMI est en baisse de 1,16%. Le CAC 40 recule de 1,52% sur la semaine. Et le Dow Jones de 2,68%. On va voir un truc assez intéressant dans quelques instants au niveau technique sur le Dow Jones et le Bitcoin qui a failli casser à la hausse, revient également de 2,7%. Vous noterez au passage que finalement, la Chine ne fait pas grand-chose pour l'instant, même si tout le monde est méga bullish avec le plan qui va arriver. On est beaucoup monté, mais on se pose encore beaucoup de questions au niveau de la Chine. La performance du SMI, j'ai envie de dire, individuellement, c'est assez catastrophique. Vous le voyez, Swiss Re qui perd 4,3%. Alors, pas à cause de Swiss Re, mais simplement parce que son concurrent Müssner Re a publié des chiffres qui n'étaient pas extraordinaires la semaine dernière en Allemagne. Alors que aussi, depuis quelque temps, les gens s'étaient jetés sur les réassurances en se disant « Oui, mais ils vont augmenter les primes par rapport aux dégâts qu'il y a eu cette année, donc ça va compenser. » Donc, on a eu cet effet aspirateur à la hausse qui est revenu derrière et ça nous coûte 4,3% sur Swiss Re cette semaine. Roche qui prend 2,9% sur la semaine grâce à ses résultats légèrement meilleurs. Geberit qui recule de 2,8%, Kuehne+Nagel qui perd 2,18% après des allers-retours dans tous les sens après la publication de ses résultats. Sonova qui restructure, qui licencie un petit peu mais qui perd quand même 3,4%. Bref, une sale semaine sur le SMI, on perd 1,16%, mais on voit et on va le voir sur les charts que, eh bien, c'était pas simple, même si l'un dans l'autre, quand on regarde les commentaires de fin de semaine sur les places de bourse mondiale, eh bien, on est plutôt confortable, même si peut-être il faut se poser des questions sur les événements à suivre. Les graphiques de la semaine. Alors voici tout d'abord le Dow Jones. Alors le Dow Jones, j'aimerais prendre un tout petit peu de temps sur le Dow Jones. Alors on voit que ces derniers temps, vous voyez cette droite que j'avais créée, cette tendance que j'avais dessinée ici, eh bien cette tendance a été cassée. Tout d'abord, ça c'est la première chose qu'il faut noter, c'est qu'on a eu cette cassure la semaine dernière, que la plupart de cette hausse qui a commencé, on va dire, à la fin de l'été, était principalement due au fait que tout le monde se jetait, donc ça avait commencé là, tout le monde se jetait sur le Dow Jones parce qu'à l'intérieur, vous aviez des boîtes qui étaient relativement défensives et on cherchait des valeurs défensives pour continuer à surfer sur la vague. Voilà, le Dow Jones a fait, la semaine dernière, on est encore au plus haut de tous les temps, et a vécu une sale semaine. Maintenant, si vous regardez ce graphique-là, alors vous me direz, bon, bah, c'est une correction boursière. Non, c'est pas une correction boursière, c'est un crash boursier, puisque c'est le crash boursier de 1929. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on est en train de répliquer la même chose, mais si vous regardez ce qui s'est passé sur le Dow Jones en 1929, eh bien, dans cette tendance haussière, on va dire, exagérée, qu'on a vécue dans les années de 1925 à 1929, justement, eh bien, on a eu une tendance qui était extrêmement verticale. Et en fait, cette tendance est historiquement utilisée en se basant sur un point, une tendance de hausse sur un chart logarithmique que je ne peux pas vous montrer ici. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que cette tendance haussière sur 125 ans, qui passe plus ou moins par là, c'est difficile de vous le montrer sur le graphique, mais grosso modo, cette tendance haussière passe par là, eh bien, très rarement dans l'histoire, les indices parviennent à être au-dessus de cette tendance sur 125 ans, plus de 2 mois. Et si vous regardez ce qui s'est passé en 1929, vous voyez que pendant 2 mois, eh bien, le Dow Jones est resté en dessus de cette tendance pendant 2 mois. Alors, la tendance là, grosso modo, c'est un trait que je tire qui n'est pas exact, bien sûr, mais durant cette période de 1929, on a eu 2 mois où le Dow Jones s'est traité au-dessus de cette tendance de 125 ans. Et donc, si aujourd'hui, on se reprojette en 2025, eh bien, vous voyez que si on devait répliquer cette tendance, alors elle passerait grosso modo par là. Donc en gros, on est au-dessus de cette tendance de 125 ans pour la première fois pendant 2 mois. Et en fait, à la fin de ce mois d'octobre, on aura fait nos 2 mois au-dessus de cette tendance de 125 ans sur le Dow Jones. Après, on peut en tirer les conséquences qu'on veut. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'époque, on vivait aussi une période complètement étendue, enfin extended, on va dire, sur le Dow Jones, à la hausse, qui a été corrigée de manière assez violente, comme on le sait. Alors, loin de moi l'idée de vous dire « Ouh, attention, alerte au crash, on va se péter la figure », mais ça fait partie des choses qu'on doit se souvenir et noter, surtout dans cet environnement. Notons également que l'inversion de la courbe des taux, qui détermine normalement le début d'une récession, est une des plus longues de l'histoire, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En 1929, on avait eu aussi cette situation d'inversement de la courbe des taux. Résultat, eh bien, elle est restée 700 jours inversée avant de tourner à la baisse. Et là aussi, en ce moment-là où nous sommes, on est en train de passer la barrière des 700 jours inversée sur la courbe des taux. Donc on vous l'a dit aussi, et je le disais en début d'émission, aujourd'hui on vit une période assez particulière au niveau des marchés puisque tout a l'air complètement extended. Et quand on regarde le graphique du 10 ans, et lorsqu'on regarde la courbe du 10 ans américain, eh bien vous voyez que depuis la baisse des taux, on est quand même remonté de manière assez conséquente et qu'on se retrouve à des niveaux qu'on ne pensait pas voir le jour où Powell a baissé les taux de 50 basis points. Rapidement, le S&P 500, vous voyez qu'il se traîne toujours au plus haut de tous les temps ou pas loin. On revient sur ce triangle qu'on avait cassé. Alors, est-ce qu'on va nous faire un retest sur les niveaux des 5790 avant de rebondir, entraîné par les publications des résultats de la semaine prochaine, puisque vous savez, la semaine prochaine, il y aura du monde, mais surtout, il y aura du monde très très lourd. Donc là, ça sera un test important pour le S&P 500. Le Nasdaq, pareil, qui n'arrive toujours pas à aller chercher ses plus hauts de tous les temps. Moi, ce qui m'a un tout petit peu inquiété en fin de semaine, c'est le relativement bon comportement du marché. Mais ce reversal en fin de séance, on voit qu'en fin de semaine, personne n'a envie de rester comme ça investi sur le S&P 500. Donc, on a des corrections et des reventes en fin de semaine qui font un tout petit peu peur. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de candlestick en fin de semaine sur les indices. Le SOX, pareil, hein, même type de reversal en fin de semaine. On termine en hausse, mais quand même, vous voyez que c'est difficile pour le semi-conducteur index de retrouver une certaine dynamique. Et encore une fois, attention à ce genre de reversal. Voilà, assez par les États-Unis, reparlons de la Suisse. La Suisse, aujourd'hui, la thématique du SMI, c'est « Qu'est-ce que je fais entre 12 100 et 12 300 ?» Hein, pour l'instant, on oscille vraiment entre les deux. Début de semaine sur au-dessus des 12 300, on finit la semaine à peine en dessous des 12 200, donc vous voyez que le range se resserre, comme vous le voyez, le range se resserre encore sur le SMI. Visiblement, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher les bas de la tendance autour des 12 000. Mais en même temps, on manque un petit peu de niaque pour aller chercher beaucoup plus haut sur la Suisse. Rapidement, l'Europe, le DAX qui consolide à haute altitude. La semaine dernière, on notera qu'il y a eu 2-3 chiffres plutôt encourageants sur le DAX avec un retour d'une certaine confiance du consommateur, si on peut dire ça comme ça. Et puis la France qui est toujours dans son range, là aussi, hein, vous voyez, on oscille entre 7400 et 7600, c'est les niveaux clés pour l'instant. La France a besoin de bien d'autres choses pour l'instant pour démarrer. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le luxe pèse, l'automobile pèse, sauf Renault qui s'en sort relativement bien en France. Et tous les problèmes de droits de douane avec la Chine pèsent également sur le marché français, sans parler de l'incertitude politique majeure que nous avons en ce moment sur la France. L'or, ça se passe de commentaires, on est au plus haut de tous les temps et visiblement ça ne veut pas s'arrêter. Tout le monde est super bullish, tout le monde a découvert des nouveaux targets. J'ai l'impression que l'or va gentiment aller chercher ses 3 000 $, surtout avec l'incertitude qui pourrait éventuellement commencer à nous gagner ces prochains temps, et si les choses continuent à être instables. Parce que l'incertitude se ressent quand même toujours au niveau du Moyen-Orient. Vous voyez que le baril de pétrole hésite toujours dans tous les sens. La semaine dernière, on est toujours à 71-78, mais on est passé par 70 $. Le fait que les Israéliens aient bombardé l'Iran, je crois que c'était vendredi soir, n'a pas vraiment fait bouger le pétrole, si ce n'est le faire remonter un petit peu de 3%, mais à très court terme, ça ne résout pas le problème. La question, c'est est-ce que maintenant on joue au ping-pong et puis que maintenant Israël a répondu, l'Iran va répondre et puis Israël va répondre. En tous les cas, pour l'instant, ce ne sont que des cibles militaires. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs sur les infrastructures pétrolières. Donc pour l'instant, c'est plutôt encourageant de ce côté-là. Mais on voit toujours énormément d'incertitudes. Il y a aussi un autre point d'incertitude, et pas forcément au niveau du pétrole, mais au niveau des militaires, puisque vous avez vu que les soldats nord-coréens vont commencer à lutter avec les Russes contre les Ukrainiens. Donc ça veut dire qu'il y a une implication d'autres pays encore et je ne sais pas si ça c'est très rassurant pour la suite des événements. Là-dessus, vous rajoutez les élections américaines qui vont déterminer une politique, on va dire, assez importante au niveau de la guerre en Europe et au Moyen-Orient, puisque si c'est Trump qui arrive au pouvoir, ça risque de changer un petit peu la manière de diriger les choses, en tout cas donner de ses instructions par rapport à ce qui se passe là-bas. En revanche, si c'est Kamala Harris qui est réélue, eh bien, on risque de continuer un peu sur la même direction. Donc, pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. Et j'ai l'impression, j'ai envie de dire que pour l'instant, le baril représente un petit peu ça. Il y a un truc qui est assez intéressant au niveau du baril quand même. Il faut le mettre parce que c'est toujours bien de les afficher, ce genre de truc. C'est ce qu'on appelle un head and shoulder. Vous voyez qu'ici, on a une épaule, une tête. Hop, on revient sur ce qu'on appelle la ligne de cou et on est en train de développer une deuxième épaule en direction des 73 $ et des poussières. Ce qui veut dire que si on avait vraiment un head and shoulder, eh bien, si on va chercher les 73 $ sur le pétrole et qu'on revient en dessous casser les 68, ensuite, on va pouvoir se répliquer un mouvement assez spectaculaire depuis les tops du baril jusqu'à la ligne de cou. Et là, derrière, le déclenchement à la cassure avec un objectif qui revient de nouveau autour des 56-58 $. Ce qui correspond également à la cassure de ce triangle qu'on avait ici à l'époque. Ça fait beaucoup de chiffres, là, beaucoup de trucs là. Mais vous voyez, on avait un triangle ici aussi et on avait dessiné cette amplitude-là. Et donc ça correspondrait en plus, head and shoulder plus le triangle qui casse. Ben voilà, ça me laisserait une belle correction sur le baril. Mais pour quelles seraient les justifications? C'est une autre histoire qu'on aura peut-être l'occasion de compter bientôt. Pour les vedettes de la semaine en Suisse, on va passer dessus relativement rapidement, parce que là je suis en train de causer, de causer, de causer, ça prend du temps. On notera que Sandoz a été upgradé par JP Morgan, qui est extrêmement positif sur l'avenir, qui pense que la croissance est plus rapide que prévu, et que finalement l'objectif qu'ils avaient fixé sur les marges devrait être atteint relativement rapidement, donc extrêmement bullish sur son dos. Vous voyez d'ailleurs que le titre le rend bien. On a eu l'upgrade en début de semaine et puis après une petite reprise de profit. Mais derrière, on finit quand même quasiment au plus haut. 38,50 niveau à casser sur le chart de son dos qui correspondrait assez plus ou moins plus haut historique. En cas de cassure, il pourrait y avoir un petit mouvement de 4 ou 5 francs suisses à la hausse sur son dos. Arista, le boulanger industriel, a plus ou moins fait état de recettes en hausse pour le trimestre, mais pas autant que ce que le marché aurait aimé. La direction est plutôt positive pour l'avenir et ils pensent qu'ils sont tout à fait capables d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés cette année. Le marché ne le voit pas forcément comme ça. Vous voyez que sur l'annonce, le titre s'est fait déglinguer et il termine en fin de semaine au fond du bac, malgré les commentaires, on va dire, positifs de la direction. Mais encore une fois, les analystes ne sont pas enchantés et pas d'accord avec ça. Donc, ils ont fait face à quelques offres vendeurs durant toute la semaine sur le titre. Difficile de trouver des points de support. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à 1,50, ça pourrait éventuellement offrir quelque chose, mais ça reste un titre qui vaut 1,50 francs. Swiss Steel, on n'en parle jamais, mais là, on risque de plus en parler très très longtemps, puisque le titre s'est fait déglinguer cette semaine. Rien de spécial, si ce n'est beaucoup d'articles dans la presse suisse alémanique qui laissent supposer que Swiss Steel se dirige directement dans le mur, avec d'autres mots, en faillite, puisque le ralentissement de l'industrie automobile lui fait beaucoup de mal et qu'il ne serait pas à même de tenir le choc jusqu'à la fin de l'année. Donc le titre sous pression et ça risque de ne pas se terminer ici. Logitech a publié ses chiffres cette semaine. Grosso modo, ils ont raté les attentes du marché de très peu. Néanmoins, ils ont annoncé des recettes satisfaisantes et ils ont même relevé leurs objectifs pour la fin de l'année. Malgré tout cela, encore une fois, c'est pas vraiment ce que dit la boîte qu'on a écouté, c'est la déception des analystes qu'on a entendue, puisqu'ils estiment encore une fois que les attentes annoncées par la direction de Logitech sont trop conservatrices, donc forcément, on a tapé sur le titre durant la semaine. Le chart se passe de commentaires. De nouveau, vous voyez mes deux grandes flèches rouges que j'avais à l'époque en disant ce serait bien qu'on n'ait pas cassé les 70 balles. Ben voilà, hein, on a des niveaux et ce serait bien qu'on reste là et qu'on n'ait pas beaucoup plus bas sur Logitech. Sinon, il y a un mouvement qui pourrait nous entraîner bien, bien plus bas. À surveiller, je pense que si on commence à aller chercher les 67-68 francs, les gens vont commencer à parler d'aller combler le gap qu'on a laissé ici autour des 60. Et après, ce sera porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller chercher cette descente aux enfers. Là aussi, hein, on peut le voir comme on veut, mais tac, tac, vous voyez que ça pourrait être éventuellement interprété comme un head and shoulder, même si on notera que le gars, il a une petite épaule et une grosse épaule avec une tête bien dans les épaules quand même. Mais voilà, en gros, il faut quand même pas aller casser ses niveaux sur Logitech ces prochains temps. Roche a publié des résultats légèrement meilleurs que les attentes et ça a suffi donc pour avoir le titre qui remontait de près de 3% la semaine dernière. Et légèrement, c'est pas l'euphorie pour l'instant, mais la croissance est en train de s'accélérer timidement. Pour l'instant, on n'utilise vraiment que des superlatifs qui sont plutôt modérants, légèrement, tranquillement, gentiment, mais ça repart tranquillement, c'est le cas de dire. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer ces prochains temps. Je vous rappelle que dans ma réflexion aujourd'hui sur Rush, tout le monde est sur hold ou sur sell pour les plus négatifs. Et que si tout d'un coup on se rend compte que ça commence à frétiller quelque part, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui commencent à changer leur fusil d'épaule et qui disent bon allez maintenant on part sur strong buy ou même sur buy, tout d'un coup il risque d'y avoir des manœuvres assez spectaculaires à la hausse sur le bon rush. Le bon rush que vous voyez, alors là bah, pour l'instant on avait cette tendance descendante qui a été cassée, donc celle-là. On a repris ces plus hauts récents qu'on avait fait. Donc le prochain objectif, c'est d'aller chercher de nouveau les prix de juillet-août pour revenir au niveau des 290 francs suisses à surveiller ces prochains temps. Je vous dis, il suffirait de pas grand-chose pour que les gens se repositionnent gentiment sur le bon rush avec des commentaires un petit peu plus optimistes. Kuehne+Nagel a publié des résultats la semaine dernière qui étaient plutôt, on va dire, encourageants. Mais en même temps, quand même un tout petit peu trop incertain selon ce qu'on peut lire dans la presse. Donc sur l'annonce, le titre a baissé. C'était au milieu de semaine, donc vous voyez qu'on était chercher les 214. Et puis derrière, on a été plutôt rassuré parce que pas mal d'analystes sont venus simplement pour dire non mais c'est bon, ça va vers le mieux, les choses s'améliorent. Donc attention, attention, on est allé chercher des points bas. On a fait un reversal et on essaie de consolider maintenant sur les 220. Alors on va surveiller attentivement le chart de Kuehne+Nagel ces prochains temps. Si on tient le niveau des 220 et qu'on arrive à aller rechercher les 226, 227 pour aller chercher un 230, attention parce que tout d'un coup là aussi les choses pourraient s'améliorer et on pourrait avoir des surprises ces prochains temps. Et je rappelle aussi que dans leur business, si tout d'un coup le pétrole venait à baisser, ça pourrait aussi leur donner peut-être un petit coup de main à faire à suivre sur Kuehne+Nagel donc. U-Blox a publié des chiffres qui étaient, on va dire, moins pires que prévu. Après, ils avaient complètement foiré le début de l'année dans le secteur des puces GPS. Et puis, ils se sont légèrement redressés au troisième trimestre. Encore beaucoup d'incertitudes, bien sûr, dans le secteur des semi-conducteurs, évidemment. Mais néanmoins, des commentaires relativement positifs de la part du patron, du CEO, qui se montrait encourageant et motivé pour l'année prochaine. Il estime qu'on part dans une situation de redressement global et il était plutôt encourageant. Ça n'a pas du tout suffi aux investisseurs. Alors, le graphique de U-Blox se passe de commentaires. Alors oui, il y a eu un rebond vendredi, mais vous voyez que entamer la semaine à 80 et descendre au plus bas à 64 francs suisses, ça fait quand même très très mal, malgré des commentaires relativement positifs de la part du management. SGS a vu ses recettes progresser durant le troisième trimestre. Grosso modo, ils ont confirmé leurs objectifs pour l'année entière. Et puis, on notera un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% et puis une croissance organique de 7,3%. Donc plutôt constructif et plutôt encourageant, mais là aussi, c'est pas ce que le marché attendait. Alors si vous regardez le graphique de SGS, déjà on peut se rendre compte que c'est le graphique qui ne fait rien depuis quasiment 3 mois. Vous voyez qu'on est dans un range, clairement, avec un bas ici, là où on est venu chercher vendredi. Et quand bah, on est dans une configuration latérale sur SGS qui ne fait strictement rien. Mais voilà, bah, la semaine dernière, on n'a pas vraiment apprécié les résultats puisque le titre, entre jeudi soir où on le traitait autour des 95 francs suisses, est allé chercher les 89,40 vendredi matin avant de se reprendre en fin de séance. Mais vous voyez que pour l'instant, SGS, c'est pas le truc qui est le plus motivant dans les marchés puisqu'il ne se passe pas grand-chose depuis l'explosion à la hausse du mois de juillet dernier. La semaine prochaine, ce sera donc spectaculaire, bien sûr, ça va être une grosse, grosse semaine, tout d'abord parce qu'il y aura les premières estimations du PIB américain qui vont nous tomber dessus, on aura directement derrière l'inflation allemande qui nous permettra de revenir sur le débat des taux par rapport à la BCE, et puis jeudi, on aura le PCE, donc l'inflation américaine, vous savez, ce fameux chiffre que la Fed adore pour prendre ses décisions. Et puis ensuite, on aura encore, bien sûr, en fin de semaine, les chiffres des non-farm payrolls. C'est quand on voit la tronche des jobless claims, les continuing claims, hein, pas ceux hebdomadaires, eh bien, on peut se demander ce qu'ils vont nous sortir ce vendredi. Je rappelle que le mois dernier, ils nous ont pris à contre-pied avec des chiffres fabuleux. Est-ce que cette fois, ils auront l'outrecuidance de nous refaire le coup juste avant les élections américaines? Ce sera hyper intéressant à observer, voir s'il y a un tout petit peu de manipulation au niveau du BLS aux États-Unis ou pas. En tous les cas, grosse semaine au niveau macro. Et puis, évidemment, on s'approche gentiment du 5 novembre avec l'élection américaine. Le 7 novembre, la Fed. À partir de ce week-end, les gens de la Fed n'ont plus le droit de parler. Un black period, ils ne peuvent plus faire de commentaires sur l'économie américaine. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, c'est la grosse semaine des résultats puisqu'on a Amazon, on a Meta, on a Apple, on a Microsoft. Les big names vont publier. Nvidia viendra bien plus tard, mais en tout cas, pour ceux-ci, ils vont publier. Ce sera donc une semaine très importante qui peut démarrer encore un nouveau rallye, cette nouvelle jambe du bull market pour aller chercher les 6000 sur le S&P 500 ou alors marquer le pas en disant « Ah, il y a quand même un truc qui est en train de coincer ». Et là, on pourrait se retourner sur tout ce qu'on a déjà abordé comme sujet, les cartes de crédit, la dette américaine, plein de choses qui vont pas au niveau de l'emploi. Et tout ça pourrait nous faire un tout petit peu, peut-être, changer notre fusil d'épaule. Mais si on regarde encore une fois les indices Greed and Fear, ça va plutôt pas mal. La VIX semble vouloir repartir vers la hausse si on regarde le graphique également. Mais les marchés restent extrêmement confiants. Pas très logique, hein, on le voit, et de plus en plus d'articles apparaissent dans la presse pour dire « Mais comment est-ce que l'on peut justifier un comportement pareil de la part des marchés boursiers avec des chiffres macro pareils et une situation économique et géopolitique comme on l'a à l'heure actuelle ?» Ça paraît complètement fou, ne serait-ce que pour discuter de l'élection américaine qui arrive gentiment. Eh bien, on peut se poser énormément de questions parce que quid de Monsieur Trump ou quid de Madame Harris, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Franchement, personne est bien placé pour le dire et on est toujours dans une élection qui semble-t-il être ultra serrée et qui pourrait se dérouler à quelques voix d'écart. Et on ne sait pas si on va balancer du côté obscur ou du côté des Jedi à partir du 5 novembre. Donc, grosse surprise, grosse incertitude. Et pourtant, les marchés sont relativement strong. Est-ce que ça va continuer comme ça? Affaire à suivre, mais ça, on en reparlera dans le Morning Bull Live de demain et des jours qui viendront, parce que là, je ne suis plus en vacances, effectivement. Je suis revenu et le prochain Swiss Bliss, la semaine prochaine. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour une nouvelle série de Morning Bull Live. Très bon dimanche à tous et à demain. Allez! Bye bye. Ah oui, j'oublie encore, petit détail, l'heure d'hiver, on est passé à l'heure d'hiver chez nous aujourd'hui, on a gagné une heure ce dimanche matin, mais par contre, faites attention parce que les Américains, eux, ils ont un décalage, donc pendant une semaine, on va avoir des horaires différents entre Wall Street et nous, donc à se souvenir, mais ça, on comprendra assez rapidement dès lundi. Allez, bonne fin de journée et à demain. Bye bye.